Le port de commerce est bloqué, les patrons peuvent se rhabiller. Les camions citernes au repos s'alignent en amont du dépôt. Il est 5 heures, le port s'éveille. Il est 5 heures, l'économie reste en sommeil. Sur tous les ronds-points, c'est la fête, on allume des feux de palette. Des voix s'élèvent dans la nuit, ici on bloque l'économie. Il est 5 heures, le port s'éveille. Il est 5 heures, l'économie reste en sommeil. Le sous-préfet, le commissaire sont tous deux sur le pied de guerre. Venu de Colbert au galop, les flics préparent les lacrymos. Il est 5 heures, les ports s'éveillent. Il est 5 heures, nous n'avons pas sommeil. On agite nos petits drapeaux, Jojo transmet toutes les infos. Un teubé filme à la sauvette pour se faire mousser sur Internet. Il est 5 heures, le port s'éveille. Il est 5 heures, l'économie reste en sommeil. Solidaire, jamais à sec de pile, nous chante des slogans débiles. À défaut de révolution, FO fout la musique à fond. Il est 5 heures, le port s'éveille. Il est 5 heures, nous n'avons pas sommeil. Allez, on n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué, gna 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 gna,
on n'est pas fatigué,
ouais,
wouhou.
C'est dans la rue que ça se passe,
dans la rue que ça se passe.
Et les jeunes répondent, résistance,
résistance,
résistance. Les jeunes répondent,
résistance.
Nya, nya, nya.
Police partout, justice nulle part. Police partout, justice.
Bonsoir, bonsoir, auditrices et auditeurs de Radio Diwa.
Bonsoir.
Nous sommes quatre ce soir dans les studios pour la deuxième édition de cette émission Feu de tout bois. Et donc derrière les micros, il y a...
Il y a Adrien.
Il y a Sophie.
Il y a JC.
Et puis il y a Nat derrière les manettes en pleine forme avec son casque sur les oreilles. Il est très très concentré, voilà. Alors ben, on va commencer par vous souhaiter une bonne année 2012, hein. C'est un peu de circonstances. Et puis on va vous faire le sommaire de cette émission de ce soir, de ce jeudi 5 janvier. Et même avant ça, vous faire un petit commentaire sur la musique d'introduction. Qui était coupé au début, mais ça c'est les difficultés de, comment dire ça, de coordination entre les ordinateurs et les êtres humains, vous voyez, c'est pas toujours hyper synchronisé. Et donc en tout cas cette musique était celle qui concluait notre dernière émission du mois de décembre et qui avait été coupée brutalement par l'ordinateur à 21h précise. Et donc une de nos fidèles auditrices qui est probablement là, qui s'appelle Christelle, nous a demandé de pouvoir réentendre ce morceau, c'est chose faite.
On va un peu parler de la TVA sociale qui a été mise en place, qui vient d'être mise en place.
Non, qui n'a pas encore été mise en place. Ah, c'est un projet gouvernemental. Oui, voilà. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on a un peu au menu? Qu'est-ce que vous nous avez préparé là dans
vos... sociale, on a aussi, on va parler un peu de l'Égypte et ce qui s'y passe depuis quelques temps là-bas. On on aura aussi au menu des petits, un petit aperçu de, d'un journal qui est fort sympathique, qui s'appelle Article 11.
Oui, on va vous parler de divers articles qui sont dans ce journal Article 11. Oui, voilà. Et puis, JC, toi, tu vas nous parler de quoi ce soir ?
Des centres de rétention administratifs. Et donc, voilà quoi.
Voilà, alors on doit s'entraîner à bien parler dans les micros parce qu'il paraît que sinon vous ne nous entendez pas derrière vos postes de radio. Alors là, on espère que vous nous entendez bien. Vous êtes donc bien à l'écoute de Radio Erdiwa et vous écoutez l'émission Au feu de tout bois. Donc cette nouvelle émission qui va être un espace, on l'espère, de débat, de chronique. On vous racontera diverses choses sur des journaux qu'on lit, des personnes qu'on ira voir, des personnes qui viendront en studio nous raconter des choses. Et donc ce soir on va vous parler de l'Égypte, de ce qui s'est passé depuis un an en Égypte. Mais avant, moi, j'avais envie de vous faire vite fait une petite info. Là, vous savez, sur ce sujet dont on parle dans les médias en ce moment, la fameuse TVA sociale que nous concocte notre cher gouvernement. Et ça, c'est quand même en termes d'avancée de la, de la destruction des acquis sociaux, c'est quelque chose d'assez phénoménal. Donc, comme vous le savez aussi probablement, la TVA normale est passée de 5,5% sur les produits de consommation courante à 7% depuis le 1er janvier, donc c'est pas rien. Et donc l'austérité qui nous menace de toutes parts, qui s'abat sur nous, eh bien elle va s'abattre aussi sous forme maintenant d'une augmentation généralisée des autres taux de TVA également, puisque bah, en fait l'idée du gouvernement, c'est En gros, c'est une forme de destruction de la sécurité sociale, quoi, du principe de cotisation sur les salaires. Et ils se disent, ah, mais on va diminuer les cotisations sur les salaires, les coûts du travail, et à la place, on va augmenter la TVA. Comme ça, ben, c'est nous, c'est vous, c'est tout le monde qui va faire ses courses, qui paye son gaz, qui paye son papier toilette ou sa bouteille de lait, qui va payer beaucoup plus cher. Et c'est cet argent-là qui, soi-disant, servira à financer la sécurité sociale, bon, qu'on s'emploie bien à détruire de toute façon par ailleurs.
Ouais, en plus, elle est présentée comme sociale, enfin, ça fait penser à quelque chose d'un peu assez populaire, et en fait, c'est clairement un cadeau aussi fait au patron et fait aux riches, et répercuter des frais normalement qu'ils ont, enfin, un impôt qui est payé par les patrons sur l'ensemble de la population, les salariés. Donc c'est assez injuste comme mesure.
Merci le gouvernement et merci 2012.
Et donc maintenant, on va peut-être enchaîner avec un peu un aperçu de ce qui se passe actuellement en Égypte et un peu de ce qui s'y passe depuis quelques temps. Qu'on nous avait beaucoup parlé l'hiver dernier, le printemps dernier, de ce printemps arabe et de la chute de Moubarak. Ça, c'était le 11 février 2011, suite à des grosses mobilisations au Caire notamment et un peu partout dans le pays, à des grèves qui ont fait chuter ce président qui était tous les 5 ans réélu depuis 30 ans. Étant le seul candidat, c'était assez facile. Donc maintenant, c'est mis en place une espèce de transition qui a un peu du mal à avancer, parce que depuis quasiment l'année qui a passé, la situation en fait a assez peu changé au niveau du pouvoir et de ce que dénonçaient les manifestants qui étaient venus occuper la place Tahrir. Là, on en reparle de ces derniers temps, depuis fin novembre, début décembre, parce qu'il y a eu des grosses mobilisations. Et une grosse répression aussi, pas mal de morts liées notamment à des tentatives de sitting près du Parlement et près de là où siège le gouvernement actuel. Parce qu'effectivement, il ne s'est pas passé grand-chose depuis un an, parce que l'armée tient toujours le pouvoir, et parce qu'en fait, la chute de Moubarak n'a pas permis du tout une démocratisation ou une libéralisation du régime égyptien. Et depuis le 11 février, en fait, il n'a pas cessé, même si on en a peu parlé dans les médias, d'avoir des mobilisations à travers tout le pays, mais plus particulièrement au Caire. Avec, je vais faire brièvement quelques petits repères chronologiques. Le 5 mars, par exemple, de l'année dernière, il y a eu des centaines de personnes qui ont attaqué des locaux de la police de la sécurité pour empêcher la destruction de documents compromettant les officiers. Et donc il y a eu un affrontement avec la police et les manifestants ont récupéré des documents qui ont publié sur internet avant de les transmettre à l'armée. Ça, c'était afin de mettre la main sur les personnes qui sont responsables de la répression durant le mois de janvier et février avant la chute de Moubarak, parce qu'il y a eu pas loin de 800 morts durant cette période, qui étaient des affrontements très violents. Suite à ça, il y a eu avril, par exemple, il y a eu 1 million de personnes sur la place Tahrir pour demander l'emprisonnement de Moubarak. Finalement, suite à ces fortes mobilisations, la cour administrative a dissous l'ancien parti de Moubarak, qui est le PND, le Parti National Démocratique, donc il n'existe plus. Il y a eu quelques officiers, quelques commandants qui ont été aussi inculpé. Il y a eu le début du procès d'Hosni Moubarak, ses fils qui ont été emprisonnés, et la maladie étrange aussi de Moubarak qui est venue un peu retarder tout ça. Mais en fait, c'est des mesures qui sont assez légères, sachant que les personnes qui sont encore actuellement au pouvoir sont les mêmes qu'il était sous Moubarak, même s'il y a eu des personnes qui ont été écartées, c'était un peu les personnes les plus visibles. Je continue un petit peu avec quelques dates. Il y a eu le 1er juillet, il y a eu des milliers de personnes qui manifestaient au Caire, à Alexandrie, pour réclamer des jugements toujours sur ces personnes qui ont participé à la répression des mois de janvier et février. Il y a eu 6 acquittements de personnes le 5 juillet, des piliers du régime de Moubarak, ministres et hommes d'affaires. Du coup, par la suite, il y a eu des centaines de personnes, des centaines de milliers de personnes au Caire, dans les grandes villes, juste après ça, le 8 juillet. Puis ainsi de suite, juillet, août, septembre, les mobilisations en fait a diminué, mais restaient très, très importantes dans les principales villes d'Égypte. Ce qui a fait que le Conseil supérieur des forces armées, qui est actuellement le pouvoir dirigeant en Égypte, qui est composé de généraux et qui a à sa tête le maréchal Hussein, j'ai perdu son nom, Tantawi, pardon, a déclaré l'état d'urgence, donc interdiction de grève, interdiction de tout un ensemble de mobilisations sociales, mais ça n'a pas empêché les manifestations de continuer. Et notamment, à partir de septembre, il y a eu de plus en plus de manifestations qui demandaient clairement la fin de ce régime et la fin du régime militaire, voyant très bien que la chute de Moubarak n'avait pas du tout permis un réel changement au sein de la société égyptienne. Et tout ça accumulé, octobre, novembre, tout ça accumulé par les manifestations qui ont eu lieu fin novembre avec... Des occupations, des sittings devant le Parlement, devant les grands centres de décision. Il y a eu une expulsion, la police et un militaire et la police anti-émeute est intervenue avec des balles, des fusils à plomb. Enfin, on a vu des images d'ailleurs circuler sur Internet et dans des journaux de policiers tirant avec des revolvers sur les manifestants. Donc il y a eu des dizaines et des dizaines de morts à ce moment-là. Et par la suite, en décembre, tout le mois de décembre dernier, il a continué à avoir ce rythme-là d'affrontements assez important. En fait, cette petite chronologie un peu de ce qui s'est passé pour montrer qu'il y a vraiment un mouvement social et de révolte. On ne peut pas parler révolution parce que pour l'instant, le même régime est en place. Et il n'y a pas de changement significatif pour parler d'une réelle révolution qu'on veut un peu vendre dans les médias un peu facilement. Mais il y a quand même une mobilisation très forte. Et il y a des enjeux derrière tout ça qui sont clairement des enjeux de pouvoir pour l'armée qui est actuellement en place, qui est le pouvoir qui est en place depuis 5 ans, dans les années 50. Tous les anciens présidents égyptiens sont issus de l'armée. Et Hosni Moubarak en faisait partie, était un général. Donc il y a c'est un pouvoir qui n'est pas décidé du tout à céder sa place. C'est un pouvoir qu'a l'armée qui possède une partie non négligeable de l'économie égyptienne. Ils possèdent notamment, ils ont acquéri pas mal de terres parce qu'ils ont le droit à des prix un peu plus bas parce que c'est des zones de sécurité par exemple. L'armée est très investie dans des activités touristiques, l'armement évidemment, la construction d'infrastructures, des produits de biens de consommation. Dans l'électronique ou l'agroalimentaire, ce qui fait que l'armée emploie approximativement 10 à 20% de la population égyptienne et contrôle un quart de l'économie, ce qui n'est pas rien.
C'est intéressant quand même ce concept de l'armée impliquée dans les activités touristiques. Je ne sais pas, peut-être ça pourrait être une suggestion aussi pour cette campagne électorale en France. On cherche à relancer l'économie de diverses manières. Ici, dans le Diwa, on pourrait avoir des... Je ne sais pas, moi... Des...
Ils s'occupent, quoi, du coup, ouais, c'est sûr.
Ouais, puis voilà, ils font presque un peu du social dans le tourisme.
C'est ça, voilà. Et puis ça pousse, pourquoi pas, à s'engager dans l'armée, même si les gens qui sont à la... Évidemment, qui profitent de tout ça, sont pas les troufions, comme on dit, les gens qui sont à la base, mais bien les généraux, colonels, et ainsi de suite.
Devenez hôtesse dans une cabane à pizza, dans un camping du Diwa, embauchée par l'armée française, par exemple.
Avec votre képi.
Ça serait un peu l'équivalent de ça. En uniforme, du coup, on pourrait vendre des pizzas et des hot dogs dans les campings du Diwa. Ça serait rigolo.
Aux couleurs de la France. Donc, cette armée égyptienne qui possède plus d'un quart de l'économie égyptienne est pas mal aidée par l'étranger, notamment par les États-Unis. L'Égypte, c'est le deuxième pays le plus aidé par les États-Unis après Israël, qui reçoit chaque année un peu plus d'un milliard de dollars. Donc voilà, de ce côté-là, les États-Unis ont plutôt envie de conserver ces gens-là qui permettent une certaine stabilité géopolitique.
En même temps, leurs dollars, ils valent de moins en moins. Là, bientôt, ils ne voudront plus rien. Leurs dollars, un milliard de dollars, ça sera...
C'est peut-être pour ça que Moubarak est déjà parti.
Est tombé.
Et oui, donc du coup, cette armée, elle a pas du tout envie de céder le pouvoir. Là, il y a des élections qui sont mises en place. Donc, ça a commencé au mois de décembre. Ça s'est divisé en trois, parce qu'il y a en trois régions qui ont voté séparément pour élire un parlement qui sera une constituante, mais qui n'a pas fonction à faire une nouvelle constitution. Donc là encore, on voit mal comment changer réellement un régime politique sans changer de constitution. Donc ces élections, on nous a beaucoup parlé des frères musulmans et voilà du score qu'ils avaient fait.
De la menace islamiste.
Voilà, de la fameuse menace islamiste. Et il est vrai que les frères musulmans sortent plutôt gagnants de ces élections jusqu'à présent, en tout cas, même si elles ne sont pas finies. Oui, mais alors du coup, voilà, là il se pose un peu un problème entre les frères musulmans qui ont maintenant une force dominante au niveau électoral et l'armée qui n'est pas prête à céder le pouvoir, mais qui pourrait quand même le céder, puisque les frères musulmans, j'ai parlé un peu de l'ensemble des mobilisations qu'il y a. Il faut savoir que les frères musulmans, ils n'ont pas soutenu, pas soutenu du tout, en fait, toutes les mobilisations qui ont été faites en disant qu'il y avait un processus électoral, il fallait le respecter, et que ce n'était pas le moment de venir manifester et de réclamer, puisque la démocratie faisait son œuvre. Or, on voit bien que les mêmes sont toujours au pouvoir, on voit bien que rien ne change vraiment. Donc, c'était les frères musulmans, eux, s'ils arrivent à la tête du pouvoir, ça sera bien sûr parce que l'armée les aura autorisés, et ça sera bien sûr pour ne pas changer grand-chose à la situation telle qu'elle est, peut-être mettre un petit brin d'islam un peu plus sur la société égyptienne, mais ils sont pas. Ils jouent un peu la carte des réformateurs, mais dans leur discours et dans leur posture, notamment en dénonçant même les violences qu'avaient commises les manifestants, on voit bien qu'ils sont pas prêts à changer les choses. De toute façon, l'armée ne les autoriserait même pas à changer les choses. Donc on en est un peu à cette situation-là. Il y a à côté de ça un mouvement social dont on a très peu parlé aussi en Égypte. Mais je vais peut-être y revenir après une petite pause musicale.
Oui, ça, tu pourras reprendre ton souffle comme ça, ce sera...
Yeah! gonna be free just for a while.
Et donc, pour finir un petit peu sur ce qu'on a dit sur la révolution en Égypte, ou plutôt la révolte, puisqu'on a bien vu que pour l'instant, la révolution n'était pas encore bien en place. Il y a peut-être une des clés, en tout cas, pour arriver à un mouvement un peu plus révolutionnaire, qui est les nombreuses mobilisations sociales qui se sont déroulées, parce qu'il y a effectivement une contestation sur l'ancien régime très corrompu et évidemment, tous les cas de torture, la police, les jugements militaires qui sont effectués pour les personnes qui sont arrêtées dans les manifestations, enfin, un ensemble de choses liées à la répression et au régime. Mais il y a aussi des conditions de travail extrêmement difficiles, des salaires très bas. Et donc, par exemple, au mois de septembre, il y a eu 750 000 Égyptiens et Égyptiennes qui ont participé à des grèves, que ce soit au Caire, Alexandrie, près du Golfe. Près du canal de Suez, qui est une région économique extrêmement importante pour l'Égypte. Et ces grèves concernaient à la fois les transports publics, les enseignants, les médecins, les raffineries de sucre et bien d'autres secteurs encore. Et donc peut-être que là, ce mouvement social naissant et les syndicats indépendants qui commencent à se mettre en place du fait un peu de mise en retrait du syndicat étatique qui était sous les ordres de Moubarak, peut-être va permettre aussi une avancée importante dans ce pays, en tout cas souhaitons-le, même si les conditions géopolitiques peuvent changer un peu la donne. Nous verrons ça en tout cas dans les prochaines émissions. Et maintenant, on va faire un petit saut vers ailleurs et je vais donner la parole à Élise qui va nous lire un petit communiqué.
Alors, bonsoir à tous. Je viens faire un communiqué sur ce qu'on appelle les inculpés de la Bège. Alors, le 14 novembre dernier à Toulouse, une dizaine de personnes ont été interpellées au cours de la rafle menée par une centaine de gendarmes mobiles dans 7 lieux d'habitation et 4 d'entre elles sont depuis incarcérées à la maison d'arrêt de Muret. Ils et elles sont poursuivis pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destruction ou de dégradation de biens. Violences commises en réunion et dégradation ou détérioration du bien d'autrui commises en réunion. Des chefs d'inculpation très lourds au regard des faits qui leur sont imputés et pour lesquels ils nient toute participation. L'action réalisée à la protection judiciaire de jeunesse, la PJJ, de l'Abège le 5 juillet dernier par une dizaine de personnes qui ont déversé des excréments sur des bureaux et des ordis et laissé sur les lieux des tracts dénonçant à juste titre l'accentuation de la répression à l'encontre des mineurs. Donc, depuis le 15 novembre, 4 des personnes sont en prison en préventive sans que l'on sache pour combien de temps encore. De plus, des prélèvements de leur ADN ont été effectués contre leur gré pendant leur garde à vue. Le refus qu'ils et elles ont tout opposé leur vaudra un procès le 9 mai prochain et le tribunal prétexte attendre le résultat de ces prélèvements pour les maintenir en détention en se gardant d'avancer la moindre date concernant leur libération. La situation des inculpés de la Bège rejoint en fait celle des nombreuses autres personnes placées en détention provisoire dans diverses geôles françaises et pour qui on ne sait pas quand ils vont être jugés et qui sont innocents de fait.
En tout cas, c'est le problème des procédures antiterroristes, c'est-à-dire, là, je ne sais pas si c'est vraiment une...
Là, ce n'est pas encore une procédure antiterroriste. Peut-être qu'ils vont la passer sous ce régime-là, d'ailleurs.
Mmh. D'accord. Oui, bien sûr, c'est ce qui vise plus des personnes que des faits. Un mouvement social, un mouvement politique, donc qui concerne des personnes plus que des faits qui sont des faits
en eux-mêmes qui sont pas très répréhensibles finalement.
Voilà, tout à fait, et qu'ils nient eux de toute façon. Et là, il y a eu une enquête de 4 mois et ils n'ont rien dans le dossier de précis. Là, ils sont en train de faire les analyses ADN, mais ils n'ont aucune preuve concrète. Voilà.
Ce qui n'est pas la première fois que ça arrive, hein. C'est un peu la manière dont l'État français réprime et décourage les gens de s'organiser et de lutter pour des choses. Et on voit par exemple que dans l'affaire de Tarnac, qui a été très médiatisée, donc c'était en 2009, je pense, je ne sais plus, 2008, voilà, qu'il y a eu les arrestations de... d'une dizaine de personnes à Tarnac et à Rouen et à Paris sous chef d'inculpation antiterroriste. Et on voit bien que pour l'instant, il n'y a toujours pas eu de procès pour ces gens-là. Leur dossier, il est assez vide aussi de preuves matérielles. Et donc, voilà, on m'entend pas bien. On est un peu sur le même genre finalement de phénomène, quoi, où c'est une manière de décourager des mouvements politiques en réprimant les gens, en les mettant en prison de manière arbitraire et sans qu'on sache pour combien de temps. On va s'écouter un peu de musique. Qu'est-ce que tu nous proposes, Adrien ?
Moi, j'aurais bien proposé le morceau qui aurait dû être passé tout à l'heure.
C'est quoi ?
C'est « Les bureaucrates se ramassent à la paix ».
Des jours heureux et la misère finie. Mais maintenant, nous sommes des rebelles. Et l'on peut voir dans le monde aujourd'hui les bureaucrates se ramassent à la pelle. Tu vois, ça pourrait foutrement bien changer. Les bureaucrates se grève sauvage les emporte avec le pouvoir qui les suit. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler. C'est une pratique qui nous rassemble. Je les assassine en Argentine. Nous survivons tous deux ensemble. Tu les fous en l'air sur le port d'Anvers. Mais le crime rapproche ceux qui baisent. Tout doucement, en faisant du bruit. Et le temps ne saurait effacer. Le pas des amants tous
aurez très certainement reconnu le morceau de Prévert, les feuilles mortes se ramassent à la pelle, qui était détourné ce coup-ci, interprété par Vanessa Hachloum, mais qu'on peut trouver sur une chouette compile qui s'appelle Pour en finir avec le travail.
Haha, ça introduit bien le prochain sujet en tout cas. Et donc vous êtes toujours sur RDWA, vous écoutez toujours l'émission Feu de tout bois, le temps passe vite, on a beaucoup de choses à dire, voilà. Et donc, pour en finir avec le travail, moi je vais vous parler maintenant d'un article que j'ai trouvé dans le Chouette Canard, qui s'appelle Article 11, qui existe depuis pas très longtemps. C'est un journal qui paraît tous les deux mois. Donc là, j'ai le numéro pour décembre et janvier 2012. Je ne sais pas trop où on peut trouver ce journal dans le Diwa, excepté dans un endroit assez improbable, et pourtant un endroit où on peut trouver des bons journaux, de la bonne presse alternative, c'est dans la petite épicerie de Recoubeau-Jansac. Alors Nathalie vient de faire un bond en face de moi. Mais en tout cas, si, il y a toujours, on peut trouver Article 11, on peut trouver CQFD, on peut trouver Le Monde Libertaire, plein de journaux très intéressants. Donc dans l'épicerie de Recoubeau, n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous passez par là. Et donc ce journal Article 11, c'est un journal qui est intéressant parce qu'il a vraiment une mise en page assez graphique, assez créative. Donc c'est pas du tout quelque chose de consensuel, quelque chose d'habituel. Bon, c'est publié sur du papier journal comme tous les journaux, hein, du papier assez fin et assez froissable, qui à mon avis peut aussi servir à allumer des feux, mais c'est pas ce que je ferai avec Article 11. Et donc au niveau graphique, c'est assez particulier. Il faut s'habituer un peu au début parce que c'est un format, il est très grand, alors c'est un peu déstabilisant pour le lire. Et puis comme les vous voyez, la mise en page est pas très habituelle. Il faut trouver en fait comment ça fonctionne, les notes de bas de page, les titres, etc. Mais une fois qu'on est habitué, ça va très bien, c'est très agréable et c'est un très beau journal. Et donc ils ont, dans ce dernier numéro, réalisé une interview d'un rappeur qui habite dans la région parisienne, qui s'appelle L'Inconsolable. Et je trouvais ça assez génial, un peu ses textes et son approche des choses. Donc l'article s'intitule « Payer à rien foutre » ou même « Payer à foutre la merde », carrément. Et en fait, ce jeune rappeur, il témoigne du fait que lui, quand il était jeune, il s'est retrouvé à faire plein de petits boulots très mal payés et dans des conditions très difficiles, notamment en intérim, où il explique qu'en fait, réclamer de se faire payer ses heures supplémentaires, c'est considéré quasiment comme un manque de respect et où on met vraiment la pression sur les salariés pour qu'ils ne réclament rien, qu'ils acceptent tout et surtout qu'ils se taisent. Voilà. Et donc, lui, ça l'a pas mal dégoûté du travail, ce garçon, et il s'est dit que tout compte fait, il n'allait peut-être pas continuer à perdre son temps comme ça, à perdre sa vie comme ça, à faire des boulots qui n'intéressaient pas et qui étaient très stressants et très difficiles. Et donc, il s'est décidé à passer plus de temps à faire ce qui lui plaît dans la vie, c'est-à-dire faire de la musique, écrire des textes. Et donc, il s'est un peu organisé tout seul. Hein, il a fait un petit site internet que vous pouvez voir assez facilement. C'est un site qui s'appelle inconsolable.free.fr. Et inconsolable, c'est même l'inconsolable. Il faut faire attention parce que c'est 1, le chiffre 1, et puis consolable en un mot, si vous cherchez ça sur des moteurs de recherche. Moi, j'ai mis un peu de temps à le trouver quand j'ai cherché tout à l'heure, mais vous verrez, si vous cherchez, vous le trouverez. Et donc, sur son site, vous pourrez écouter sa musique, vous pourrez lui commander son CD avec tous ses morceaux. On va en écouter un d'ailleurs bientôt. Et j'avais envie de vous lire un petit texte qu'il a écrit, parce qu'il y a aussi des textes qu'il a fait, qu'on peut lire comme ça, en direct sur son site. Et donc, il a écrit une lettre de non-motivation que je vais vous lire. Alors, la lettre de non-motivation commence comme ceci. « Madame, monsieur, par la présente lettre, je viens solliciter votre attention car je suis non-demandeur d'emploi et je recherche à ne pas trouver de travail. Aussi, si vous pouviez ne pas m'embaucher dans votre entreprise, je vous en serais très reconnaissant. Je pourrais ainsi avoir l'opportunité de ne pas mettre à votre service mes compétences, ni mon expérience, ni mon temps, ni rien de tout ce que je possède. Et Dieu sait que je ne possède pas grand-chose. Et de ce fait, de ne pas contribuer à la démultiplication de vos bénéfices. Je serais ravie de pouvoir ne pas vous voir le matin, ni le soir. Je suis sans ressources humaines à vous offrir. Je suis paresseux, je me lève à midi. Je suis fatigué de nature, je suis lent, improductif. Non désireux d'apprendre le métier que vous offrez de m'enseigner, je ne suis ni motivé, ni disponible, ni prêt à faire quelque effort que ce soit pour le devenir. Je sais qu'il y a des métiers formidables, passionnants, d'autres avec des gains mirobolants à la clé, mais je n'arrive ni à m'intéresser, ni à désirer de l'argent. Je n'ai besoin de rien d'autre que ne rien faire. Bien sûr, à une époque, j'avais pensé à rentrer dans l'un de ces endroits, dans l'une de ces entreprises, pour tout y saboter, pour malmener le personnel, mal faire mon travail, créer des conflits et faire perdre du temps et de l'argent au patron. C'est une option certes fort séduisante, mais qui hélas demande bien trop d'efforts et de motivation. Je ne porte pas cette attention au monde du travail, ni au monde tout court, je suis trop feignant pour cela, il m'indiffère au plus haut point. Ne vous en faites pas, je ne suis pas le syndicaliste qui viendra vous ennuyer de quelque manière, je n'ai ni la force ni l'envie de défendre les travailleurs, de les tirer de force de la souffrance, qu'eux-mêmes choisissent d'endurer sans raison. Ils sont si contents d'être malheureux, si heureux d'être frustrés, comment oser les en priver ? Je ne veux pas m'employer à vous importuner, je veux juste ne pas être importuné, ne pas être employé. Je m'arrête là, ça continue, mais si vous voulez savoir la suite, vous pouvez l'écouter, enfin la lire sur son site. Et donc maintenant, on va écouter un morceau de musique dont je n'ai pas retenu le titre, mais vous verrez, c'est assez explicite. Consommez-moi, voilà, ça s'appelle Consommez-moi par l'inconsolable.
Que j'ai dû renoncer à me procurer un écran plat. Ce dernier m'aurait coûté de m'exténuer, de me mettre à plat, de me tuer à la tâche 35 heures par semaine, 4 semaines par mois. Si d'autres ont du temps à perdre, ça les regarde, surtout pour un salaire. Pas moi, l'air pas moi, je l'ai fait sans caviar, je l'ai fait sans foie gras. J'aime mieux manger peu mais sain que plein de n'importe quoi. Je préfère oublier mes besoins créés par la publicité. Répondre à la nécessité suffit à mes soins, à prendre soin de moi. Car la vie qu'on a, nous, c'est ce qu'un de ça, on sait se plaindre. Mais faire le choix de changer reste l'apanage d'une partie restreinte. J'ai moi songé à en être l'une des voix, et bien voilà. Et je crois qu'il serait bon d'être exigeant, demander la lune des fois. Cesser de se contenter de ce qu'on attend, c'est scandaleux. Et par contre, tenter de prendre ce qu'on attend, attends, serait 100 fois mieux que de se laisser bercer par ce qu'il nous raconte. Je lance un référendum sur le taf en souhaitant comme moi la masse votre rencontre.
Si on consommait moins,
eh ben,
on danserait moins, et on irait bien,
peut-être bien,
parce qu'on trimerait moins. Si on consommait moins, on les engraisserait moins, et on serait quelqu'un,
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 quelqu'un. On sait que j'ai dû renoncer à me procurer un écran plasma qui pourrait me faire kiffer mais qui me ficherait dans le caca, car il me pousserait à devoir rembourser tant par mois qu'il me priverait de mon temps, et j'aime autant pas moi. J'aime avoir le temps de prendre le temps, prendre le temps de lire un livre ou de voir un film, d'écrire un titre en pensant à ma vie entre temps. J'aime me réveiller lentement puis ouvrir les yeux et me lever et rêver longtemps en contemplant les cieux et m'élever. J'aime me sentir vivant, sentir que j'existe en écrivant des titres, en gravant des disques, en subsistant, défiant les obstacles, évitant de me donner en spectacle. Je fais du sens et plutôt que du sens, as pendant que les autres bâclaient l'audace de tous démissionner,
tous,
en laissant le boss seul face à la mer dans laquelle il a sciemment mis son nez. L'heure de la désertion a sonné, la guerre économique se passera sans nous, sans quoi la lutte sociale nous passera sous le nez.
Si on consommait moins,
eh ben,
on danserait moins, et on irait bien,
peut-être bien,
parce qu'on trimerait moins. Si on consommait moins, on les engraisserait moins, et on serait quelqu'un,
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 quelqu'un. Tu sais que j'ai dû renoncer à un écran de fumée, assumer quand j'ai su que mes yeux étaient embrumés, faire les choix conséquents quand c'est qu'on se décide à voir que dans l'équation temps contre argent les gens se font avoir. Le temps est infiniment plus précieux parce que plus rare, l'argent qu'une infinité d'encriers et de buvards, de têtes mises sur des billets pour lesquels on perd la nôtre. On sert la haute instance financière et dit merde à l'autre, ce quelle qu'elle soit. C'est bête et je vois que cette doctrine prédomine et perdure. Les gens trouvent ça hyper dur de s'occuper sans s'empiffrer de shopping et d'air pur, polio, gaz d'échappement, sortant de la voiture, nous servant, c'est sûr, à aller taf et lâchement bas, c'est ça le plan, pour nous aliéner à notre taf et l'argent, dérisoire qui en émane, on nous amène des besoins absents, besoins auxquels on sait qu'il nous faut renoncer, ce n'est pas la croissance qu'il nous faut relancer, mais la décroissance qu'il nous faut lancer.
Si on consommait moins,
eh ben,
on danserait moins.
Quelqu'un,
quelqu'un,
quelqu'un.
Alors juste après, juste après la petite, juste le, après la petite musique, et donc il y a les, moi je vais vous parler des centres de rétention. Alors juste une première date, c'est le 29 octobre 1981, et ça a été la, alors que François Mitterrand vient d'être élu, en fait c'est la loi qui légalise et organise la rétention administrative en France. Donc en fait, les centres de rétention administrative sont aussi appelés les CRA. Il y en a à peu près une trentaine dans toute la France, inclus l'outre-mer. Et donc c'est donc juste après que la gauche arrive au pouvoir, donc en 81, c'est la loi qui légalise et organise la rétention administrative. Et donc cette instrumentalisation du lieu de privation des libertés ne dépendent pas de l'administration pénitentiaire, mais suite à la découverte
Excuse-moi,
à
j'y sais,
Marseille,
mais qui c'est qu'on prive, à qui on prive la liberté comme ça là?
aux sans-papiers,
Ah bah voilà.
voilà, un petit peu à toi aussi, quand il le faudra. Donc c'est des lieux en fait qui ne, ouais, non mais c'est des lieux en fait qui privatisent la liberté des sans-papiers qui ne dépendent pas de l'administration pénitentiaire, qui fait suite en fait à la découverte à Marseille en 1975 d'une prison clandestine qui était contrôlée par la police et où étaient séquestrés des travailleurs immigrés en instance d'expulsion. Et donc, depuis 1964, la police exerçait son autorité sans aucun contrôle judiciaire. C'est juste sur la seule base d'un règlement de police de 1938, donc, hein, et qui autorisait l'internement des étrangers sans papier. Donc en fait, les CRA ont vocation donc à recevoir les étrangers qui n'ont pas le droit de séjourner sur le territoire français et sont sous le coup d'une interdiction de territoire et d'une procédure d'éloignement. Donc le temps de pouvoir les envoyer dans leur pays d'origine et donc en fait de leur permettre d'exercer des démarches administratives et des recours. Donc, ils sont aussi présents, les étrangers rentrant sur le territoire et donc en attente de régularisation de leur situation via des demandes d'asile, etc. Et donc, ils y restent entre 2 et 45 jours maximum, la durée moyenne de rétention étant à peu près entre 9 et 10 jours. Donc, depuis le début 2010, donc c'était sous Besson. Donc en fait, il y a cinq associations, la CIMAD, France Terre d'Asile, l'association Service Social Familles Migrantes, le collectif Respect et Forum Réfugiés qui assure en fait la mission d'accompagnement juridique et social des personnes retenues, mission qui leur est confiée par l'État au titre d'une convention. Donc en fait, le recours à l'enfermement est devenu en fait systématique, sans recherche d'aucune alternative. En 2010, ce sont plus de 60 000 personnes qui sont passées par un centre de rétention en métropole et en outre-mer, dans un contexte en fait de surenchère répressive depuis longtemps de toute façon la répression. Et donc le nombre de places en centre a augmenté de plus de 80% entre 2005 et 2011. Et donc en fait, il y a un nombre croissant de familles et d'enfants enfermés. Le nombre des familles et des enfants en centre de rétention est en constante augmentation. En 2010, il y a eu 178 familles ont été enfermées avec 356 enfants, dont 57 nourrissons, contre 318 en 2009. Donc, ce sont des conditions de rétention qui s'apparentent à celles de la détention et de la difficulté à faire valoir en toutes circonstances des droits fondamentaux, des personnes qui engendrent tension constante et violente. Donc le renforcement de ce régime d'exception et la banalisation de l'enfermement comme méthode de gestion des étrangers en situation irrégulière, c'est une politique du chiffre qui est complètement aveugle, qui a précipité en fait des personnes, qui précipite des personnes, des enfants dans l'atmosphère tendue des centres de rétention. Il n'y a plus de différence de toute façon depuis tellement longtemps et depuis la création entre la rétention et la détention. Les méthodes carcérales y ont cours jusqu'à des contraintes telles que menottage et isolement. Et sur les 28 000 personnes placées en rétention en 2010, il y a eu 11 000, 11 000 personnes ont été expulsées. Et donc, en fait, même en outre-mer, en fait, la situation est particulièrement grave, où des régimes dérogatoires sont à l'œuvre. À Mayotte, par exemple, 26 000 expulsions ont eu lieu en 2010 contre 28 000 pour la métropole, ce qui fait à peu près 30 790 pour l'ensemble de l'Outre-mer. C'est la face cachée de la politique d'éloignement du gouvernement, juge David Roy, responsable de la commission éloignement de la CIMADE. Quotidiennement, des parents d'enfants français sont expulsés sans même pouvoir déposer de recours ou passer devant un juge. Ça, c'est la bonne vieille démocratie à la française. Donc voilà, il y a juste au niveau d'un chiffre, juste avant la petite musique. J'ai juste une petite dernière chose avant de passer par des exemples de lutte. En fait, il y a à peu près donc une trentaine de centres de rétention, dont pour le sud-est, en fait, donc il y en a une à Nîmes, à Marseille, à Nice et à Lyon.
Car votre récompense sera grande dans le ciel.
Moi je suis Rascar Capac et je t'attaque avec mon mac. La vie une chose, trappe pas de quartier. Quand les lyrics frappent, mon sourire te glace comme un clic-clac qui grince. Là qui revient mince, tous les mardis pour te serrer la pince. Donne-moi le courage d'aller bouffer tous les nuages. Écoute mon cœur, écoute la rage, écoute ce texte anthropophage. Écoute ce mec qui vote réac, écoute cette mère seule qui craque. Écoute le cri des animaux quand on les enfouit dans un sac. On revient fier, tapis dans l'ombre pendant des millénaires. Ses poumons t'éclairent comme le DF ou le nucléaire. Alors ferme ta gueule, les Argémiens marchent seuls. Pas de meuf, pas de taf, pas de bouffe, c'est bien casse-gueule. Je me calmerai jamais, j'en ai trop gros sur la patate. Je coupe les pattes, tes pattes, encore donner des coups de savate. C'est l'hypocrisie totale, un peu d'espoir que ça dérange. C'est la partie générale, un peu d'espoir que les gens changent. Mais stupéflip vite. Le truc est vivant dans les têtes, même chez les crames et dans les snacks.
Tu l'as séquestré, baïonné.
Cette entité démoniaque, créatrice de monstres, était toujours en activité, toujours plus terrifiante.
Feu de tout bois, voilà, nous allons continuer, terminer sur ce sujet qui n'est pas des plus rigolos quand même, hein, des centres de rétention en France. C'était quoi le morceau de musique qu'on vient d'entendre ?
C'était Stupéflip, Stupéflip vite.
Stupéflip vite, et c'est bien dans le ton.
Donc en fait, il y a eu des petits exemples de lutte, il y en a beaucoup, il y en a tout le temps donc, contre les centres de rétention. Et notamment, en fait, ce week-end, pendant que beaucoup de personnes en fait, savraient le champagne et mangeaient du foie gras avec plein de saucisses. Donc en fait, il y a eu, notamment en fait, au niveau des centres de rétention, il y a eu, tout un week-end agité en fait. Contre les centres, et donc il y a eu des rassemblements notamment devant le centre de rétention de Vincennes, qui est l'un des plus grands en France, avec celui de Millinano, et qui sont en région parisienne. Et donc il y a eu des jets de pétards, en fait des fusées qui ont été tirées. Il y a eu un petit parloir sauvage, et comme ça se fait tout le temps. Et puis, donc du coup aussi, il y a un rendez-vous en fait pour un rassemblement devant le centre de rétention de Vincennes, et qui se passera en fait le samedi 14 janvier 2012 à 16h. Et c'est la ligne du RER A. RER, en fait, c'est la ligne, c'est l'arrêt Joinville-le-Pont. Et du coup, en fait, c'est parce que donc le vendredi 13 janvier, donc la journée juste avant, il y a les juges de la Cour d'appel de Paris qui rendront leur décision concernant les 6 personnes sans papier inculpées ayant fait appel pour la révolte en fait collective qui a eu lieu en juin 2008, juste après la mort d'un retenu qui embrasa le centre de rétention de Vincennes. Et donc voilà. Et donc, enfin, j'ai juste un petit bouquin à vous recommander. En fait, ça a été le titre, c'est Feu au centre de rétention janvier et juin 2008. C'est les sans-papiers qui témoignent, et donc en fait c'est les sans-papiers qui ont écrit c'est leur mot à eux, et puis c'est pas du tout des spécialistes, donc c'est assez intéressant. Sinon, après, il y a des sites internet aussi, il y a le réseau Éducation sans frontières qui fait tout un travail. Et donc le site internet, c'est www.educationsansfrontieres.org. Sinon, il y a le 9e collectif des sans-papiers. Donc c'est le 9e collectif, collectif.net, pardon. Et sinon, il y a aussi des infos sur le www.cimad.org. Et sur les différents sites Indie Media. Et puis voilà, donc du coup, j'espère que. Puis la lutte continue aussi contre les frontières, et puis contre l'enfermement de toutes et tous au niveau des sans-papiers, au niveau des centres de rétention. Et puis voilà.
Una hermosa milonga de Atahualpa Yupanqui, Los Hermanos se llama. Presencia de Uruguay en la milonga.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro pa' llorarlo, con un rezo pa' rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Y una hermana muy hermosa que se llama Libertad.
Et voilà, sur RDWA, 107.5 FM, nous venons d'entendre un morceau de Mercedes Sosa, qui est une chanteuse argentine très célèbre, et qui nous chantait Los Hermanos. Et donc cette langue espagnole va nous permettre de faire le lien avec le prochain sujet qui est un thème assez important pour le moment. C'est tout ce mouvement, ce grand mouvement qui a démarré en Espagne l'année dernière, au mois de mai, et qui est un peu l'espèce de date phare, date déclencheuse. C'était le 15 mai 2011 en Espagne. Et donc on a un article dans ce journal Article 11, dont je vous ai déjà parlé un peu tout à l'heure, avec deux personnes d'Article 11, Emilien Bernard et Ferdinand Casalis, qui sont allés à Madrid interviewer des gens, voir un peu ce qui se passait sur place, et qui nous ont écrit un très bon article sur tout ça. Voilà, et qui précise d'ailleurs dans l'introduction que les gens qui occupent la rue là-bas préfèrent comme appellation le nom 15M pour décrire le mouvement, que plutôt que le nom indigné, qui est le nom que les médias utilisent en fait.
Ça, c'est la récupération des médias.
Voilà, et donc dans le studio, on peut quand même dire que nous accueillons avec nous Marianne, qui est elle aussi allée, en Espagne, à Madrid, et qui a fait une très belle émission sur Radio Diwa, qui s'appelle Balade à Madrid, c'est ça ?
Ouais, il y en a deux.
Voilà, donc que vous pouvez écouter sur le site rdiwa.fr. Mais on a la chance d'avoir Marianne qui est là, donc qui va pouvoir aussi discuter avec nous de
J'ai
tout ça.
J'ai pas lu l'article.
Ah, quel dommage. Mais donc, ce qu'on peut faire, c'est que moi, je peux te raconter des choses qu'ils disent dans l'article, et après, tu me dis ce que t'en penses, par exemple.
D'accord.
Voilà, donc déjà, cette histoire du nom, les indignés, c'est effectivement le cas là-bas. Les gens, ils s'appellent
pas
comme ça.
On parle pas les indignados, c'est un vieux mot. En fait, il parle beaucoup Indignaus, le livre de Stéphane Hessel, a été traduit en espagnol. Le deuxième aussi, Compromettez-vous. C'est un truc qui est très courant, qui est très lu là-bas. Mais on ne parle pas beaucoup des indignés, on parle du mouvement 15M, effectivement. Je pense qu'ils ont dépassé le stade de l'indignation.
Et c'est ça qui fait plaisir. Et alors, en tout cas, moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans cet article, c'est un article qui est, comment dire ça, qui reprend les choses un peu de manière un peu générale, avec une approche assez globale de ce mouvement, et qui nous explique notamment, enfin, en tout cas, c'est leur point de vue, qu'en fait, c'est pas un mouvement qui arrive par hasard à ce moment-là en Espagne. Donc ils disent que tous les ingrédients étaient là, une crise sociale énorme, plus de 20% de chômage, une crise du logement, un discrédit...
50% de chômage chez les jeunes.
Chez les jeunes, oui.
Chez les jeunes, les moins de 25 ans, jusqu'à 50%. Un jeune sur deux qui travaille.
Et donc ce qu'il faut savoir aussi en Espagne, c'est qu'ils n'ont pas des ACDI, qu'ils n'ont pas le RSA. Donc quand on n'a pas de boulot, on n'a pas d'argent et...
On crève.
On crève, voilà. Donc je pense que ça explique... probablement aussi ce dynamisme et cette force d'auto-organisation qu'ont les Espagnols, notamment sur les questions du logement, les questions de la nourriture, de la récupération de nourriture. Il y a un mouvement squat qui est très très puissant à Barcelone depuis plus de 10 ou plus de 15 ans, avec énormément de maisons occupées, de gens qui vivent là-bas, qui s'organisent finalement, parce que payer un loyer, c'est un peu une des choses qui nous maintient très fort en dépendance finalement vis-à-vis de l'argent. Mais quand on peut habiter dans une maison sans payer, ça permet déjà de plus se débrouiller.
Ça règle une partie du problème, ouais.
Voilà, et ce qu'ils expliquent, donc, c'est que, en tout cas, la situation sociale, forcément, est un ingrédient assez fort qui permet ce type de mouvement. Mais par rapport à Madrid, ils expliquent que ça vient aussi d'un choix, finalement, d'un choix d'organisation, un choix de stratégie des mouvements autogestionnaires de là-bas, qui, depuis 15 ans, ont fait le choix de s'ouvrir beaucoup plus, de s'ouvrir aux gens, de s'ouvrir à la population, de ne pas rester entre convaincus, entre militants politiques qui fonctionnent avec leur code, leur langage un peu opaque, leur forme vestimentaire et tout ça, et finalement qui restent entre eux, mais qu'ils ont fait le choix de s'ouvrir, et notamment, par exemple, d'ouvrir des services à la population comme les Oficinas de Derechos Sociales, qui sont donc des bureaux sur les droits sociaux et auxquels les gens peuvent s'adresser pour demander de l'aide quand ils ont des problèmes face aux institutions sociales, en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui permet de s'ouvrir à tout le monde et de pas être sectaire. Et donc, ils insistent beaucoup là-dessus, dans ces choix d'organisation, de manière de faire que ces personnes qui s'organisent à Madrid... essaye de permettre le plus possible des croisements, en fait, entre des gens différents, des gens qui ont différentes visions de la politique, voire pas de vision de la politique, des gens qui n'ont jamais réfléchi à ça, et d'offrir des espaces pour s'organiser, de donner des réponses concrètes à des problèmes concrets. Donc le fait d'ouvrir comme ça des maisons, il y a vraiment toute une... Et ça, ils expliquent bien dans cet article, c'est vraiment, comment on pourrait dire, une compétence qui est assez développée. Et spécialement de Barcelone. Donc là, ils expliquent comment il y a des gens de Barcelone qui sont... Voilà, ils s'organisent en équipe. Il y a des gens qui savent ouvrir les maisons. Il y a des gens qui connaissent très bien la loi, qui connaissent très bien les procédures juridiques. Il y en a qui savent où aller chercher les informations sur les logements, savoir à qui ça appartient, des choses comme ça.
Je pense que ça, c'est un petit peu vieux. Ça, c'est de l'historique. Après, effectivement, il y a ce truc-là. Et maintenant... du coup, qu'ils savent gérer des squats, ils savent aussi empêcher des expulsions, parce qu'en Espagne, c'est comme aux États-Unis, il y a plein de gens qui ne peuvent plus payer les traites, ils ont acheté des maisons à crédit, ils ne peuvent plus payer les traites et ils se font foutre dehors, à la rue, du jour au lendemain, toute la famille, des meubles là, sur le trottoir. Waouh, en France, on n'a pas cette conscience-là. C'est vraiment rude, c'est vraiment dur. Et du coup, empêcher les expulsions, là, ils se sont spécialisés dans l'empêchement d'une expulsion. Les flics viennent, il y a plein de gens dans la rue. L'huissier est là, mais il ose un peu moins dire « Bon, bah, maintenant, il faut descendre la télé sur le trottoir. » Donc, ils ont peut-être quelques longueurs d'avance sur nous.
Et en tout cas, ils ont pas eu le choix, quoi, pour avoir ces longueurs d'avance, ça c'est sûr. Ah ben. C'est la situation qui les pousse à ça. Ils parlent de deux choses intéressantes peut-être à mentionner par rapport à l'Espagne. Bah, ils parlent notamment de l'histoire, hein, parce que c'est vrai qu'on sait qu'en 1936, il y a eu quand même un mouvement populaire, autogestionnaire,
très anarchiste.
Socialiste. Oui, voilà, mais
très 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 anarchiste.
Tout à fait, qui était très puissant. qui a concerné énormément de personnes. Donc on va pas vous refaire ici l'histoire de la Révolution espagnole et de la guerre d'Espagne, mais pour dire que c'est quand même resté un modèle et une référence pour beaucoup de gens. Mais ensuite, ils ont subi la dictature franquiste pendant beaucoup d'années, jusqu'en 75. Oui, ouais. Dans ces eaux-là. Hein,
longtemps.
Franco qui est mort dans son lit quand même. Hein, donc voilà, ils n'ont pas pu le renverser.
Ça laisse des traces concrètes dans la vie d'aujourd'hui en Espagne. Il y a énormément de flics. Il y a des flics de partout. Des quarts de flics. Pas le petit Gugus là avec sa casquette sur le trottoir. Non, des quarts entiers, des hélicoptères. C'est pas la France.
Enfin, ça, dans les mouvements sociaux en France, c'est un peu pareil, puisque la dernière fois, on avait un peu reparlé du mouvement de lutte contre la réforme des retraites de l'année dernière en France. Et par exemple, à Lyon, les gens, ils ont vécu avec les hélicos au-dessus de la tête pendant 3 semaines, tout le temps. Et je veux dire qu'on ne participe pas à des grosses manifestations en France. On voit aussi ce que c'est de voir des énormes cars, des files.
Mais ce n'est pas quotidien encore ici.
C'est vrai, ce n'est pas encore quotidien, mais les forces, elles sont là. Ça, c'est sûr. Et donc, en tout cas, pour revenir sur ce truc d'historique, donc il y a eu cette longue dictature franquiste qui a fait qu'ils n'ont pas connu l'équivalent de mai 68 en Espagne, en fait, puisqu'à l'époque, ils étaient toujours sous dictature. Donc
ils ont eu la movida à partir de 75. Il y a eu cette explosion. C'est pas mai 68, effectivement, c'est pas tout à fait la même période. C'est un peu plus tard. Mais il y a eu... C'est peu comparable à mai 68 parce qu'en fait, c'était un pays pauvre. C'était un pays sous-développé.
Très peu industrialisé.
Voilà. C'est un pays difficile. C'est un pays de montagne, enclavé. Il n'y a pas de circulation. Il n'y a pas de vallée du Rhône, par exemple, qui traverse le pays. Donc, pour la communication, ce n'est pas évident. C'est un pays très dur, très rude, géographiquement. Et ça, jusque dans... Actuellement, ça se voit peut-être un petit peu moins, parce qu'avec les communications, Internet, tout ça, ça gomme ce genre de choses. Mais jusque dans les années 70, c'était très présent. Donc on peut presque dire que c'était un pays sous-développé à la mort de Franco. C'était un pays très pauvre. Et c'est devenu... Ils ont presque le même niveau de richesse que la France aujourd'hui. Donc il y a eu une explosion, mais vraiment énorme. On ne mesure pas ce que ça a pu donner de 75 à 85. C'est un boom dingue. À l'espagnol, en plus.
Oui, ça a été très, très vite. Mais c'est vrai que maintenant, on voit que la faillite financière là-bas est beaucoup plus avancée, on va dire, qu'ici. Hein,
Ils étaient pauvres, ils ont tout emprunté pour avoir les mêmes richesses que nous.
Voilà, donc maintenant, les fonctionnaires ne sont plus payés. Il y a plein de petites mairies qui sont en faillite. Enfin, c'est... La crise financière, la faillite financière est beaucoup plus avancée là-bas qu'ici.
Ah oui, nettement.
Ça, c'est sûr et certain.
Qui sont juste derrière les Grecs.
Ouais, ils sont juste derrière les Grecs. Donc ça veut dire...
C'est terrible, hein, mais concrètement.
Et en tout cas, bon, tout ça, c'est pas très loin de nous. Hein, c'est juste derrière les Pyrénées.
Il y a à peine 1000 km.
Voilà, donc c'est pas très très loin pour aller voir sur place. Bon, en fait, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, finalement, sur ce mouvement à Madrid. En tout cas, moi, je vous recommande la lecture de cet article, « Les racines du 15M », dans le journal Article 11. Et on peut mentionner aussi au passage quand même un outil de presse qu'ils ont en Espagne qui est très intéressant et très puissant. C'est un journal qui s'appelle « Diagonal », qui est un journal national qui a été lancé en 2005. Et qui a opté pour une forme assez passe-partout en termes graphiques. Donc, ce n'est pas un journal qui est étiqueté militant de telle ou telle tendance. C'est quelque chose qui est assez, on va dire, entre guillemets, ouvert et qui est très bien diffusé.
Et... C'est un peu le canard enchaîné, quand même. Ils ont des petites tendances canard enchaîné, si on peut comparer avec les journaux d'ici. Sauf que le canard enchaîné, il y a 4 feuilles. Alors que Diagonal...
C'est un magazine, en couleur.
Ouais, voilà. C'est un bi-hebdomadaire, une fois tous les 2 semaines. Et il pèse son petit kilo, quoi.
Voilà, donc ça, c'est sûr aussi, ça fait partie des outils qui permettent aux gens de s'organiser, de se connaître, de se relier entre eux. Enfin, c'est vrai qu'il
y en a plein, des outils. Il n'y a pas que celui-là. Ils utilisent énormément Internet, les réseaux sociaux. Ils utilisent les réseaux sociaux à fond, à fond, à fond. Ils ont besoin de bouteilles d'eau et ils jettent un message sur Facebook et en un quart d'heure, le problème est réglé, ils ont de l'eau. Voilà, c'est toujours sur des problèmes concrets. Ils transmettent peu d'informations, ils donnent des rendez-vous sur Internet, ils sont extrêmement efficaces de cette façon-là. Et puis, il y a un autre truc moi, auquel j'ai été sensible en Espagne, ils ont l'habitude de vivre dans la rue, et ça change beaucoup de choses. Donc, dans la rue, ça se transmet, les phénomènes se déclenchent extrêmement vite en pleine rue. Tout le monde est dans la rue. C'est leur lieu de vie. Donc, ça leur appartient. Et du coup, pour construire une démocratie participative, parce que c'est un peu ça ce qui est en train de se passer, ce que moi j'ai vu, tu as des assemblées sur les places, à tous les coins de rue, mais vraiment, sur toutes les places, tu en as une, tel jour ou tel jour, il faut arriver au bon moment, mais tu en as partout. Et ils ont une façon de se rassembler. C'est extrêmement simple pour eux de se rassembler comme ça, alors que nous, il faut qu'on se donne des rendez-vous, là-bas, c'est beaucoup plus simple. Et je pense que les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup.
Toi, tu as eu l'impression d'apprendre beaucoup de choses, alors Marianne, en allant là-bas, en voyant ce qui se passait là-bas?
Oui, du bon et du mauvais. La deuxième fois, je suis revenue un peu dégoûtée.
Tu ne vas pas y retourner alors ou...
Si, mais pas au même endroit, pas pour les mêmes raisons.
D'accord.
Mais la deuxième fois, je suis revenue avec le sentiment que c'était un mouvement récupéré et j'avais un peu les boules.
D'accord. Bon, on va passer un petit morceau de musique, je ne sais pas quoi, mais c'est une surprise.
Dollar, 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 d
ambiance dans le studio à Radio Diwa. Ça pète. La musique de Camille, et oui, ça pète. Alors bon, là, nos petits camarades sont venus nous réclamer une fin un peu plus positive sur l'histoire de ce mouvement qui est parti d'Espagne, qui était lui-même, comme ils le disent, inspiré par ces révolutions du printemps arabe. Hein. Tout ça, c'est un peu contagieux, finalement, l'esprit de révolte. C'est un peu contagieux.
À Madrid, j'ai rencontré des gens qui disaient clairement que... Il y avait des gens de la place Tahrir qui étaient venus à Madrid et qu'ils avaient aidé à l'organisation.
Ok, donc il y a clairement des liens. Et donc pour pas finir quand même, parce que toi tu as l'air un petit peu déçu finalement de ce que tu as pu voir en termes de récupération politique, mais je pense que ça peut être intéressant quand même de dire que ce mouvement il est beaucoup plus large en fait à l'échelle mondiale. Tu parlais des États-Unis, il y a tout ce mouvement Occupy Wall Street notamment, et où finalement les gens aux États-Unis sont un peu dans la même situation qu'en Espagne, c'est-à-dire... Voilà, les gens qui ont des crédits, qui ne peuvent plus payer, qui sont à la rue, qui n'ont plus de boulot, donc ils ne peuvent plus bosser, ils ne peuvent plus gagner d'argent. Et à un moment, on prend conscience qu'il y a une vie après l'argent, finalement. Que l'argent, c'est, ça semble, ça semble un élément incontournable de la vie, mais que comme dit cette phrase, je ne sais plus, d'un soi-disant chef indien, que je ne sais pas vraiment si c'est lui qui l'a dit, mais que l'argent, ça ne se mange pas, en fait.
Ouais.
Et que quand on se rend compte quand que l'argent, on aura tout ça acheté... se mange pas... On va se rendre compte que peut-être qu'il y a une vie qui continue même sans l'argent et qu'on peut, on peut s'organiser pour manger, pour habiter, pour se soigner, pour garder les enfants.
Enfin... Et puis on peut descendre dans la rue pour faire autre chose que d'aller au boulot.
Tout à fait.
Et que la rue, ça nous appartient. On peut y faire des tas de choses finalement. Be amazed. I just want to beat Mariah. Oh, let me deserve that race. Everybody get up now. Yeah. Get ready for the power. The money. I'll hit the money note. And it is.
Hop, nous revoici à la fin de cette émission. On va bientôt vous dire au revoir, mais avant, on va vous parler de quoi ? On va vous parler de ce dont on ne vous a pas parlé, parce que c'est vrai que là, on a eu plusieurs invités dans le studio. On a eu Élise, Marianne qui sont venues nous voir, c'était très chouette, ça nous a fait plaisir, et on espère que vous aussi, vous avez trouvé ça intéressant. Et par exemple, moi, je voulais vous parler aussi, j'avais plusieurs articles sur la psychologie de la modernité un peu. Et bon, je vais juste vous dire en quelques mots, mais je pense que je vous en reparlerai la prochaine fois, notamment de ce qu'on appelle la culture du narcissisme, qui est vraiment quelque chose qui est assez lié à notre époque moderne. Et j'ai vu un petit article dans un journal qui s'appelle Nexus, qui nous parle des traders, en demandant est-ce que les traders sont des psychopathes en puissance, et qui nous parle de tests de psychologie sociale qui ont été faits. Et donc sur un groupe de 28 traders, ils ont été soumis à des tests par des chercheurs afin d'évaluer leur aptitude à la coopération et leur degré d'individualisme. Ces résultats ont ensuite été comparés à ceux d'une étude réalisée sur 24 patients psychopathes. Donc des patients diagnostiqués psychopathes hospitalisés dans des établissements sécurisés, donc a priori des gens considérés comme dangereux par la société. Et l'un des co-auteurs de l'étude, il commente ainsi les résultats. Il dit « Naturellement, on ne peut pas dire que les traders sont des dérangés, mais par exemple, ils se comportent de manière plus égoïste et sont beaucoup plus enclins à prendre des risques qu'un groupe de psychopathes faisant la même expérience. » Voilà. Donc ça, c'est juste une petite introduction sur le sujet, mais... Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez encore des choses à dire, Adrien, je sais.
Peut-être peut-être la semaine prochaine, du coup, il y aura un petit mise à jour sur les aventures du gaz de schiste.
Et est-ce qu'on m'entend hier? Et donc oui, je disais la semaine prochaine, on évoquera un peu aussi les aventures du gaz de schiste, parce que évidemment c'est pas fini et d'un jour ou l'autre ça va nous revenir dessus. On verra un petit peu les scénarios possibles.
Et ben moi en fait en ce qui me concerne, ce sera la petite surprise à la fois pour moi et puis pour vous. et puis voilà quoi. Ben en tout cas pour moi c'était une première et ça a été enfin intéressant et puis. Et puis voilà, puis à la semaine prochaine, j'espère, tous ensemble, à la fois ici dans la rue.
C'est une belle conclusion. Ben, on vous souhaite donc une bonne soirée.
Une bonne soirée.
Et donc rendez-vous jeudi prochain à 19h30 sur les ondes de Radio Diwa pour écouter la prochaine émission Feu de tout bois. Et sinon, vous pouvez aussi nous réécouter sur internet, sur rdiwa.fr. Vous pouvez réécouter les podcasts de notre émission.
Salut,
bye bye.
Salut, ciao.
Terminons avec Mansultia.
Te haine en enfer, je déchire tes doutes, je brise ton ennui, je romps tes rancœurs, tes tourments, je bois tes bouleversements. Je froisse tes folies, je file tes faiblesses avec un fil de tendresse. Je brûle tes ambitions. J'utilise mon envie de détruire tes faiblesses pour me nourrir de détresse. J'utilise ta folie, je détruis.